Bien, mon intervention, effectivement, est dans le cadre de cette distinction discipline, histoire des disciplines savantes, histoire des disciplines scolaires, quelles sont leurs relations. J'avais donc prévu un exposé un petit peu plus long, mais je vais essayer de l'abréger autant que je le pourrai. Et je vais développer trois points, rassurez-vous, ce ne sera pas très long, et m'en prendre à une théorie. Celle qui semble avoir gagné les cœurs ici et ailleurs, la théorie de la transposition didactique. Je vais donc présenter le problème des rapports qu'ont entretenu dans l'histoire récente la grammaire scolaire, c'est mon domaine, et les grammaires savantes, et développer trois facteurs qui, me semble-t-il, sont intervenus dans ce cas de figure et peuvent intervenir assez régulièrement dans d'autres cas de figure identiques dans ces relations entre disciplines savantes, disciplines scolaires. Le premier de ces facteurs, c'est, et je vais rappeler ici une partie de ma carrière, c'est l'explosion quasiment médiatique de la linguistique française au cours des années 1960-1970. Et je crois que l'explosion d'une discipline comme celle-là a des impacts jusque dans l'école. On connaît aujourd'hui à peu près les conditions dans lesquelles s'est constituée la grammaire scolaire du français. Nous parlons donc d'une discipline scolaire telle qu'elle est enseignée dans les classes. Elle vient d'une double tradition. La grammaire scolaire du latin qui était enseignée dans les collèges classiques et qui lui a apporté les concepts de substantifs, de verbes, d'épithètes. Et d'autre part, la grammaire générale, telle qu'elle était également enseignée dans les collèges classiques de l'Ancien Régime, dans la classe de logique de ces collèges. On sait que la première de ces grammaires scolaires a été peu à peu éliminée parce qu'elle était beaucoup trop difficile pour les élèves et qu'elle laisse la place à la fin du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e, à la deuxième grammaire scolaire, celle qui est la nôtre, la grammaire des fonctions avec complément circonstanciel, complément d'agent, proposition subordonnée, etc. La grammaire scolaire du français aura donc trouvé sur sa route depuis deux siècles trois grandes théories savantes. Et c'est ce rapport qui m'intéresse. La première, c'est la grammaire générale, dont elle est sortie un peu comme le papillon de sa chrysalide. De la deuxième, je ne vais pas insister, c'est la grammaire historique et comparée dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui l'influence un moment et ensuite elle rejette tous les apports qui viennent de cette théorie. Et la troisième, c'est la linguistique moderne, telle qu'elle s'est développée en Europe et aux États-Unis au cours du 20e siècle, et telle qu'elle s'installe dans l'université française au cours des années 1950 et surtout 1960. Je cite quelques noms célèbres. Gustave Guillaume n'est pas très connu en dehors de l'université. Émile Benveniste, surtout, c'est la tradition de la grammaire historique. André Martinet, le troisième, fortement influencé par la linguistique des États-Unis où il a passé plusieurs années. Et enfin, Maurice Gross, sur lequel je vais revenir. C'est de l'énorme succès que connaît la linguistique française au cours des années 60 que je voudrais d'abord dire quelques mots. Je le fais à partir de mon expérience personnelle. Je commence en 1953. Je suis né en 31. De toute façon, je vous dis ça pour vous éviter des calculs. Et donc j'enseigne la grammaire traditionnelle, comme tout le monde, si je peux dire, à l'époque, dans un collège. En 1964, je suis nommé à la faculté des lettres d'Aix, assistant, puis maître assistant, et avec ma collègue qui vient d'être également nommée, qui arrive de Paris, Claire-Blanche Bévenis, nous commençons à préparer les étudiants sous deux professeurs, Rostin et Stefanini, peu importe, à un certificat qui était un certificat obligatoire à l'époque de la licence ES-Lettres, grammaire et philologie. Quelques années plus tard, en 1967, la réforme Fouché de l'année précédente le rebaptise certificat de linguistique française. Ici, c'est l'aspect, si vous voulez, nomenclature qui m'intéresse. Le mot de linguistique française apparaît dans le milieu au cours des années 60-70. Au cours de ces mêmes années, se développent dans l'université des théories et des pratiques linguistiques nouvelles. structuralisme, fonctionnalisme d'André Martinet. Puis, à Aix, où j'enseigne, donc à la faculté d'Aix, nous accueillons en 1966 un homme jeune, polytechnicien, spécialiste de la traduction automatique au laboratoire central de l'armement. Il arrive de Philadelphie, où il a travaillé, où il a étudié la linguistique sous Zelig Harris, et du MIT, où il a étudié la linguistique avec Noam Chomsky. Il s'appelle Maurice Gross. C'est lui qui va introduire en France, et d'abord à Aix, la grammaire générative de Chomsky, dès lors, avec ses différents courants incompatibles entre eux, hein, la linguistique française explose. Je n'en donne qu'un seul exemple. Il n'y avait jusque-là qu'une seule revue qui s'intéressait à la langue française, en gros. Hein. Elle s'appelle Le Français moderne. Elle était sous-titrée jusque-là « Revue consacrée à l'étude de la langue française ». En 1963, le sous-titre change, elle devient « Revue de linguistique française ». C'est ces années qui marquent les débuts de la linguistique en France, et en France, Aix-en-Provence, dans l'université. Je suis obligé de... Je vais un petit peu vite, de façon un peu schématique, pour ne pas ralentir nos débats. En une quinzaine d'années, entre 1959 et 1974, sont créées en France plus de 10 revues consacrées à la linguistique du français. Je cite les plus importantes, Le français dans le monde, Études de linguistique appliquée, etc., etc., Langue française, Le français aujourd'hui, la revue de l'Association française des professeurs de français, comme on dit à l'époque, et des enseignants de français, comme on dira un peu plus tard, pratique, etc. Dès 1968, sous la pression de la linguistique triomphante, s'exerce sur la didactique du français dans le primaire et dans le secondaire. Des commissions de rénovation sont créées, commission Rouchette, etc. Je continue mon itinéraire personnel, qui n'est que celui d'un observateur, naturellement. En 1973, je démissionne de l'enseignement supérieur et je redemande un poste dans les collèges. Je voulais, moi aussi, face aux réalités pédagogiques concrètes, apprécier exactement ce que la nouvelle linguistique que j'avais enseignée pendant 10 ans pouvait apporter à la formation intellectuelle des élèves. Autrement dit, confronter mon expérience personnelle, une discipline savante et la discipline scolaire que j'allais désormais enseigner. Quelle ne fut pas ma stupeur tout de suite en arrivant dans les collèges de constater que les manuels de grammaire des collèges s'étaient déjà mis au goût du jour. Il dénonçait naturellement la grammaire scolaire traditionnelle, dont le procès n'est plus à faire, dit l'un d'entre eux. Ils utilisent les concepts des acquis de la linguistique, c'est-à-dire les concepts que j'avais enseignés à des adultes, mes étudiants, des années précédentes. Et ils les installent, ils tentent de les installer dans les classes avec un vocabulaire technique, nouveau, sophistiqué, prétentieux, pas unifié. Des notions de phrase minimale, de constituant de la phrase, exercice de type structural, de phonème, la transformation relative. Ça, c'est ceux qui apparaissent, ces concepts qui apparaissent au cours de ces années-là. André Martinet réussit à faire passer dans l'enseignement secondaire et probablement primaire. Et la notion d'expansion, de code, pour désigner la langue, ce qui me paraît un scandale, mais peu importe. Le ministère est littéralement assiégé par l'explosion des nomenclatures qui apparaissent alors dans les classes. Il est obligé de sortir en juillet 1975 une circulaire sur une nouvelle terminologie grammaticale pour tenter d'unifier ces nomenclatures que les professeurs d'un même établissement enseignaient chacun dans sa classe. Inutile de préciser les mêmes réactions d'hostilité à cette tendance que vous me voyez exprimer aujourd'hui. Dès le début, j'ai refusé évidemment cette évolution. Je savais pourquoi j'avais enseigné ces concepts et ces procédures à la faculté des lettres d'Aix. à des étudiants de licence. Je ne voyais pas pourquoi il fallait les enseigner à tous les petits Français. Était-il indispensable d'alourdir ainsi la terminologie grammaticale qu'on livre à des élèves qui ont déjà tant de mal à comprendre, etc., la terminologie traditionnelle? Fallait-il transposer didactiquement à l'intention de mes élèves les concepts et les procédures que j'avais livrés à des adultes qui avaient de tout autre besoin intellectuel. Alors c'est là que je me lance dans une histoire de la grammaire scolaire qui paraîtra en 1977. Mais les événements continuent ensuite. Nous sommes en 77. La pression de la recherche universitaire sur la didactique n'en est pas restée là. On passe au cours des années suivantes à cette idée que la grammaire traditionnelle n'a jamais enseigné autre chose que la grammaire de la phrase et qu'il faut élargir l'horizon des élèves au texte. Et on lance la grammaire de texte. Pour quelle raison? Parce que dans l'université venait de se développer une linguistique textuelle. On arrive donc à une grammaire textuelle dans les classes des collèges. De nouveaux concepts font leur apparition, le thème de la phrase, les progressions à thème constant, à thème linéaire, à thème dérivé, etc., les connecteurs logiques et d'autres encore. Je précise tout de suite, parce que pour aller vite, on risque d'être mal compris, que toutes ces innovations ont certainement leur justification et peuvent certainement contribuer à la formation linguistique et intellectuelle des élèves. Mais, puisque nous parlons de discipline scolaire, rappelons l'un des points essentiels, il n'y a de discipline que s'il y a des résultats. Une discipline, c'est un enseignement qui fonctionne, qui réussit, qui fait ses preuves. Et je me demande si on ne parle pas bien souvent de discipline scolaire, là où on devrait se contenter d'enseignement. La grammaire scolaire traditionnelle a fait ses preuves. La preuve par le certificat d'études. 40 ou 50% des enfants de France à une époque ont réussi leur certificat d'études. Nous sommes entrés depuis les années 80 avec la direction de l'évaluation et de la prospective et surtout son directeur Claude Tello, son directeur de l'époque, dans l'ère et dans la culture de l'évaluation. Ce n'est pas tout d'introduire une science nouvelle à l'école, encore doit-elle faire la preuve de son efficacité. Et la grammaire moderne de l'école, dont je viens de lancer quelques concepts, la grammaire textuelle en particulier, n'ont pas fait cette preuve jusqu'à présent. En tout cas, elles ne l'ont certainement pas fait en matière de maîtrise de l'orthographe grammaticale, où le niveau a chuté d'une façon catastrophique, comme l'ont montré Daniel Magnès et Daniel Cogis dans leur petit ouvrage de 2007. Je vais maintenant très vite pour les deux autres aspects. Le second facteur qui intervient sur les rapports entre grammaire scolaire discipline scolaire et discipline savante, c'est la masse critique qu'atteint au cours des dernières décennies l'enseignement supérieur français. Voici des données chiffrées empruntées aux statistiques du ministère, c'est-à-dire ce qu'on appelait les tableaux de l'éducation nationale en 1970. Aujourd'hui, c'est repères et références statistiques. En 67-68, dans toutes les disciplines littéraires en France, il y avait un peu moins de 400 professeurs. Il y en a aujourd'hui 4600. Dans toutes ces disciplines, il y avait en 67-68 4000 enseignants dans l'université. Il y en a aujourd'hui un peu moins de 28 000. Quand on connaît les difficultés considérables du recrutement dans l'université, quand on connaît le régime de concurrence et de rivalité souvent impitoyable qui la caractérise, on comprend mieux la pression de plus en plus forte que les disciplines savantes exercent sur la discipline scolaire qui est l'objet de leur sollicitude. Vers 1935, l'historien célèbre Lucien Febvre avait baptisé l'enseignement secondaire français « l'empire du milieu » pour sa domination à la fois sur le primaire et sur le supérieur. Par le biais de l'agrégation, l'enseignement secondaire était au centre du jeu. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Les disciplines savantes disposent pour influencer les disciplines scolaires d'une force qu'elles n'avaient pas jadis. Et la notion de transposition didactique qui apparaît d'ailleurs au cours de cette période, avec la période dont je parle, hein, la montée des effectifs. Le bouquin de Chevalard, si je ne me trompe, est de 1985, mais l'ouvrage de Véret auquel il est emprunté date de quelques années plus tôt. Cette notion de transposition didactique est la marque de cette domination que l'enseignement supérieur veut exercer désormais sur les enseignements scolaires. Je ne dis pas sur les disciplines scolaires, parce que je ne suis pas sûr que ces enseignements parviendront un jour au niveau des disciplines. Vous laissez encore deux minutes, pour terminer avec le troisième facteur. En fait, le troisième facteur, c'est un phénomène auquel on ne songe pas, on ne songe pas lorsque on s'intéresse au rapport entre disciplines scolaires et les disciplines savantes. Le discours dominant qu'on entend depuis une quinzaine d'années dans les IUFM et autour, dans les différentes formations, n'a cessé de dévaloriser l'enseignement de l'orthographe. L'orthographe, la grammaire, ce n'est pas le plus important. A-t-on longtemps entendu dire ? Les choses ont pu changer, je ne sais pas. Le plus important, nous dit-on, c'est l'expression orale ou écrite. L'organisation, j'ajoute, en séquence didactique qui mettait un terme au cloisonnement traditionnel en français, enseigner la rédaction, la récitation, la grammaire, etc. Maintenant, ça a été des séquences. On fait de la grammaire et de l'orthographe une sous-discipline, et j'emprunte le terme à Catherine Vinland, une inspectrice générale qui est à l'origine de cette évolution. Je rappelle encore une fois qu'il ne s'agit pas, ni pour moi, ni pour une éventuelle discussion qui n'aura pas le temps d'avoir lieu d'ailleurs, de réfléchir au fonctionnement des disciplines scolaires face aux disciplines savantes. Pardon, je dis le contraire de ce que je voulais dire. De prendre des positions sur les problèmes de fond. Je ne suis pas pour l'enseignement de l'orthographe, je suis pour la liquidation de l'orthographe française, hein, c'est pour vous dire. Hein. On connaît les résultats des orientations que je viens d'exposer. C'est l'enquête menée par Daniel Manès et Daniel Cogis, effondrement de l'orthographe, qui est d'ailleurs confirmée par une enquête plus récente faite par Claude Tello, donc à la direction de l'évaluation et de la prospective. Le mouvement de baisse de l'orthographe est largement antérieur aux évolutions, aux décisions récentes, hein, je l'accorde volontiers. L'autre résultat est aujourd'hui bien connu, c'est que l'enseignement de l'orthographe et la grammaire, de discipline scolaire qu'il était, tendrait, si j'en crois le Parisien de la semaine dernière, à devenir une discipline universitaire. Une question, puisqu'il est enseigné dans bonne partie des universités, dans les facultés des sciences, enfin, il enseigne à côté de l'enseignement scientifique. La question reste posée. La connaissance de l'orthographe grammaticale est-elle encore une finalité de l'école? Et si elle ne l'est plus, il est tout à fait normal que d'autres disciplines viennent s'installer à sa place ou à ses côtés. Il est de fait que désormais, c'est la finalité et non pas d'autres considérations qui doivent être prises en cause comme l'une des raisons de ces changements.